Je vais m'exécuter, là. Puis si à un moment donné, vous trouvez que vous perdez la voix, que vous ne comprenez pas, gênez-vous pas, vous levez la main, puis j'essaierai de l'ajuster, parce que je constate qu'il y a pas mal de réverbération dans cette chapelle, et en plus, ben, c'est pas facile de tenir le micro pour que la voix porte bien. Alors là, je l'ai devant moi. Encore une fois, ne gênez-vous pas. Si à un moment donné, vous en perdez, levez la main, puis je vais le rapprocher ou je vais l'éloigner, je ne sais pas quoi, mais on essaiera de réparer ça. Bien, je vais vous dire d'abord ma joie de me retrouver parmi vous. Je dois vous avouer que je suis un peu en infraction à l'heure actuelle par rapport à mon médecin. Je ne vous donnerai pas son nom pour que vous ne soyez pas tentés de me dénoncer, mais normalement, là, je ne devrais pas avoir accepté un engagement qui me demande une certaine dépense d'énergie. J'ai annulé tous les engagements que j'avais un peu à long terme, mais celui-là, ben, je dois vous avouer que quand est venu le moment de l'annuler, j'ai eu un réflexe, puis je me suis dit, ben, je vais attendre un peu au cas où je change. J'en aurais repris un peu. Et puis c'est comme ça que je me retrouve parmi vous, avec une énergie un petit peu diminuée, mais je ne pense pas que mon infraction soit un péché. Alors, évidemment, le thème d'aujourd'hui, « Jésus est le chemin », s'est inspiré d'une phrase de l'Évangile qui est marquante, que tout le monde connaît par cœur, on l'a déjà entendu, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je toucherai aux autres aspects de cette citation-là, entre autres « Je suis la vie », mais le thème majeur sera vraiment « Jésus est le chemin ». Et avant de vous faire entendre la lecture de ce passage d'où s'est tiré Jean 14, 1-6, bien, je vais faire une espèce d'introduction qui nous permettra peut-être de comprendre davantage le sens de la citation dans son ensemble. Cette lecture qu'on va entendre dans un moment, elle est typique de l'Évangile de Jean. Chaque évangéliste a sa manière de nous faire connaître Jésus. Vous savez qu'il y a 4 évangiles, je vous apprends rien en disant ça. Il y en a 3 qu'on appelle des synoptiques. Et puis, Jean est un peu à part. Son évangile a une tonalité très différente des 3 autres. Si on les appelle des synoptiques, c'est parce que les 3, Matthieu, Marc et Luc, ont une optique semblable, synoptique. Autrement dit, on part du même point de vue. Et c'est pour ça qu'on les appelle des synoptiques. Alors que Jean, lui, a une tonalité assez différente dans son évangile. Et chaque évangéliste a sa manière de nous faire connaître Jésus. D'abord, selon le monde auquel il s'adresse. Marc, par exemple, était en milieu païen, plein d'idoles et de faux dieux. Ces dieux personnifiaient ce qu'on considérait comme important. Je ne sais pas si vous êtes adepte des mots croisés, mais si vous êtes adepte des mots croisés, on vous demande souvent « Dieu du vent »,« Dieu de la guerre », »,« Dieu grec », »,« Dieu romain ». On avait personnifié les choses qu'on trouvait importantes. Et les choses qu'on trouvait importantes ou qu'on n'osait pas trouver importantes, mais qui l'étaient en réalité, bien, c'était à peu près les mêmes choses que de nos jours. C'était, au fond, l'argent, le sexe, la température, la force physique, puis la force militaire. Et puis, on avait donné des noms de Dieu à tout ça. On considérait ces valeurs-là, on emploie le mot « valeur » dans un sens très large à ce moment-là, on les déifiait, puis on avait inventé des dieux auxquels on avait donné des noms. Par exemple, dans le domaine de la température, il y avait le dieu de la lumière. On l'appelait Hélios. Et il y a des plantes qu'on appelle des héliotropes parce qu'elles sont tournées vers la lumière. Et la lumière, le dieu de la lumière, c'était Hélios, d'où le nom des héliotropes, Il y avait un dieu de la pluie qui s'appelait Taloc. Il y avait un dieu du vent. Alors, celui-là, on l'a souvent des mots croisés parce que c'est commode, c'est un mot de quatre lettres c'est un mot de quatre lettres et il n'y a qu'une consonne puis trois voyelles. Et ça, ceux qui font des mots croisés sont bien contents d'avoir ça parce qu'en français, on a beaucoup de consonnes puis très peu de voyelles. Mais des voyelles, on en a dans tous les mots. Alors, quand on a un mot qui comporte beaucoup de voyelles, ça fait bien l'affaire. Le dieu des vents, c'est Éol, E-O-L-E. Le dieu du feu, c'est Vulcain. Le dieu du soleil, c'est Ra. On a ça dans nos mots croisés. Et puis, on avait des dieux aussi pour magnifier l'argent. Vous vous souvenez peut-être, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on raconte comment Moïse est choqué à un moment donné parce que les Juifs étaient portés à trouver que leur Dieu, là, il n'était pas très visible. Et puis, on n'avait pas le droit de représenter, d'avoir des images qui représentaient Dieu, le Dieu des Juifs, qui était un Dieu unique. Alors, parfois, on disait, ben, des païens, eux autres, là, ils ont des dieux, là, puis c'est concret. Et c'est comme ça que Moïse a pris en flagrant délit ses contemporains et ses congénères en train d'adorer un veau d'or. On avait érigé un veau d'or. Et ce veau d'or, il s'appelait Baal. C'était le dieu de l'argent, au fond. Il y avait un autre dieu qui était le dieu de la richesse, c'était Mammon. Vous vous souvenez peut-être dans l'Évangile, on ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir Dieu et Mammon. Mais Mammon, c'était le dieu de l'argent. Et le sexe. Le sexe, le dieu de l'amour, c'était Eros. D'où vient le mot érotique. Et il y avait aussi un autre petit dieu qu'on appelait Cupidon, le Cupidon là, qui tenait des flèches, pour rappeler que lorsque on a le cœur transpercé par la flèche de l'amour, bien, c'était Cupidon qui nous envoyait ça. Alors évidemment, tout ça est un peu ridicule sur les bords, mais ça, c'était quand même l'héritage du monde païen dans lequel vivaient les Juifs. Et les évangiles, il y a des traces dans l'évangile de ce monde païen. Marc, lui, s'adressait justement à ce monde païen, et c'est pour ça qu'on trouve davantage chez Marc des allusions à tout ça. Bon, alors évidemment, je pourrais énumérer tous les dieux, je m'arrête là, mais c'est quand même important de savoir que l'évangile de Marc s'adressait à des convertis, mais qui vivait en milieu païen. Matthieu, lui, son évangile s'adresse à des communautés judéo-chrétiennes, c'est-à-dire des communautés qui étaient formées de juifs convertis au christianisme. Et c'est pour cela que Matthieu a très souvent des citations de l'Ancien Testament, parce que les juifs connaissaient bien l'Ancien Testament. Et Matthieu fait référence souvent à l'Ancien Testament pour montrer que Jésus a réalisé les promesses de l'Ancien Testament. Luc, lui, s'adresse à des Grecs, plus précisément à des Grecs, parce qu'il avait lui-même une formation grecque. Et la culture du temps était la culture grecque. Même dans le monde romain, on avait... C'est un peu comme maintenant, là, on dit les Juifs instruits connaissaient le grec, de même que les Romains connaissaient le grec. Le grec était la langue de culture. Et c'est pour cela que Luc va s'adresser plus particulièrement à des Grecs convertis. C'est l'évangile de la miséricorde. Ces Grecs convertis étaient obligés de reconnaître que leur culture était très, très orientée vers ce que l'Évangile considérait comme étant des péchés, c'est-à-dire le sexe. Et même, je dirais qu'on a peut-être hérité, nous, dans notre culture à nous maintenant, parce qu'on était très, très opposé au péché du sexe, on a peut-être même exagéré, à un point tel qu'on a connu dans notre enfance une culture chrétienne, mais qui s'inspirait de l'Évangile, mais qui avait comme durci l'Évangile, si bien que ce qui était important, c'était d'éviter les péchés du sexe. Ça devenait quasiment comme une hantise. Jean, quant à lui, va avoir un évangile pas mal différent des trois autres. Les trois évangiles synoptiques ont un peu le même schéma, et Matthieu et Luc vont développer ce qui est beaucoup plus court dans Marc. Alors que Jean, lui, a un ton très différent. Jean, c'est l'évangéliste de la vie. Il était le disciple préféré de Jésus, son confident. Il a vu de ses yeux le Messie. Il a entendu de ses oreilles. Il a saisi de ses mains le Verbe de Dieu, le Dieu vivant. Vous avez devant vous, là, c'est un hasard, mais je trouve ça très beau. Vivant, je suis avec toi. Ça pourrait résumer pas mal ce que je vais vous dire aujourd'hui. On va contempler le Dieu vivant et un Dieu qui n'est pas perdu dans les nuages, mais un Dieu qui est avec nous. Vivant, je suis avec toi. De son côté, Jésus a aimé Jean aussi, parce qu'il a trouvé en lui, plus que chez les autres disciples, un homme capable de le comprendre. C'était le disciple préféré de Jésus. Pour lui, Jésus est le Fils du Dieu vivant. Jean parle aussi beaucoup de l'amour, car l'amour, c'est ce qui donne la vie sous toutes ses formes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de l'encyclique, la première de Benoît XVI, intitulée « Jésus est amour ». Et je me souviens qu'on avait signalé la publication de cette encyclique de Benoît XVI parce qu'il parlait de l'amour éros. Oh mon Dieu, le pape qui parle de l'érotisme, qui parle de l'amour éros. Ben, l'amour éros, c'est l'amour charnel, mais il n'est pas à condamner pour autant. Si l'amour éros n'existait pas, on ne serait pas là personne. On est le fruit de l'amour éros, de l'amour charnel qui unit deux êtres. Et cet amour donne la vie. Mais il y a aussi un autre amour qu'on appelle l'amour agapé. C'est l'amour qui est davantage orienté vers le service du prochain. C'est l'amour charité qui engendre tout ce que l'amour peut produire de bon dans notre société. Donc, amour éros et amour agapé. Jean, l'évangile de Jean, est vraiment l'évangile de l'amour agapé. Et Jésus, au moment où il s'apprête à donner sa vie, au moment où il s'apprête à affronter la mort, et dans l'esprit de Jésus, la mort fait partie de la vie, puisque cette mort va permettre sa résurrection. Alors donc, il s'apprête à donner sa vie, à mourir. Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». On va l'entendre tout à l'heure dans la lecture qui va être faite. Donc, l'Évangile, il est également différent selon le genre littéraire qu'on adopte. Les évangiles synoptiques, qui ont la même facture, là, le même point de vue, la même optique, d'où le nom de synoptique, les évangiles synoptiques sont faits de récits, sont faits de nouvelles. C'est le nom qu'on emploie actuellement. Imaginez-vous que tout récemment, j'ai été mis en contact avec ma lointaine cousine qui est Arlette Cousture. Et Arlette Cousture, elle a repris l'orthographe du nom de Guillaume Cousture, qui est notre ancêtre. Le S est tombé, de sorte que les coutures en général n'ont pas le S, mais elle a voulu retrouver le S de Guillaume Cousture. Alors, c'est comme ça que Arlette Cousture prépare un volume actuellement où il y aura un volume fait de nouvelles. C'est le terme littéraire pour dire des récits qui se basent sur un fait réel, mais très enjolivé. Alors imaginez-vous que dans son prochain volume, il va y avoir un chapitre qui va être consacré à ce que je lui ai révélé, mais en donnant ça comme un fait divers, là, comme mon neveu venait me reconduire chez moi avant de le reconduire à son hôtel, en entrant, ben, je lui ai dit, là, tous les érables de Norvège qui bordent l'allée centrale et qui bordent la résidence où j'ai été ordonné, où j'ai fait mes études et où maintenant je vis comme quelqu'un qui est retraité, ben, j'ai dit, c'est moi qui ai planté ça en juin 47. C'était des arbustes qui avaient à peu près un mètre, même pas, et puis peut-être la moitié d'un mètre, et maintenant, ils ont au-delà de 50 mètres. Ah, ça l'a inspiré. Puis là, elle m'a dit, là, vous allez m'envoyer tous les détails, comment ça s'est passé, comment vous faisiez pour planter ça et tout. Alors, je lui ai envoyé un courriel de 2 ou 3 pages, puis elle a brodé là-dessus, puis ça va devenir 14 ou 15 pages. Bon, évidemment, ça m'inquiète un peu, parce que ce qu'elle a inventé, étant donné qu'elle signale que je l'ai inspiré, j'ai peur qu'on prenne ça à la lettre, puis qu'on dise, ben voyons donc, Monseigneur Couture, qui fait des prières à la mère terre, là, ben, franchement, là, c'est pas beaucoup moi, cela, là, hein. Mais elle a consenti à ajouter une petite phrase pour dire carrément qu'elle s'inspire de ce que je lui ai confié, mais qu'elle a brodé abondamment autour de ça. Bon, ben, alors, OK, là, je me sens protégé. Bon, mais c'est ça, c'est que des évangiles, des synoptiques, ce sont des récits de faits réels, mais qui peuvent avoir été enjolivés par des communautés chrétiennes d'où originent ces évangiles. De sorte que l'évangile, ce sont des faits de la vie de Jésus, mais il y a des petites différences selon que c'est Matthieu ou Marc. Il y a des ajouts. Et on peut penser que ce sont des ajouts qui ont été le fruit de l'imagination des communautés chrétiennes qui étaient là. Ça n'enlève pas de valeur à l'Évangile, au contraire. Ce sont des faits enrichis par la communauté chrétienne, inspirés par l'Esprit, si bien que ce qu'on lit dans les Évangiles, ça a une base réelle, un peu comme la nouvelle, mais enrichie par l'Esprit, qui animait ces communautés chrétiennes. Ça l'a enrichi, l'Évangile. Dans le cas de l'Évangile de Jean, ce sont plutôt des discours, les évangiles de Jean. Pensons seulement, par exemple, au discours sur le pain de vie. Jean raconte la multiplication des pains. Cette multiplication des pains, dans certains évangiles, c'est après la résurrection. Dans d'autres évangiles, c'est avant. Ça n'a pas beaucoup d'importance, ça, là. Hein. L'importance, c'est le fait de la multiplication des pains. Jean va reprendre ce fait-là, mais ça va être suivi d'un discours qui est beaucoup plus long que le récit de la multiplication des pains. C'est le discours sur le pain de vie. Et le cœur de l'évangile de Jean, c'est le discours d'adieu de Jésus avant la passion. Si bien que le chapitre 13 en partie, le chapitre 14, le chapitre 15, les chapitres 16 et 17, ce sont des discours qui ont suivi le lavement des pieds. Le chapitre 13 raconte le lavement des pieds, et puis après, il y a un discours qui va s'étendre sur plusieurs chapitres. C'est caractéristique de l'évangile de Jean. Et c'est justement de ce discours avant la scène qu'est tiré le passage que je vais demander à Lise de bien vouloir nous lire. Et c'est là que se trouvera la phrase « Jésus, je suis le chemin ». Oui, vous avez besoin de mon « oui, sûrement, je vous le passe ».
Merci beaucoup. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison de mon Père. Et je vais vous faire une promesse. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai. Et vous prendrez auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas, vous lui dites, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Personne ne peut aller le faire autrement que par moi.
Merci. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. J'ai fait un peu allusion tout à l'heure à « je suis la vie », mais je veux m'en tenir à « je suis le chemin ». Rappelons-nous, c'est tiré de ce qu'on appelle le discours d'adieu de Jésus. Un discours d'adieu dans la Bible, c'est comme un genre littéraire. Il y en a plusieurs discours d'adieu. On attribue des discours à plusieurs personnages de l'Ancien Testament. Le discours d'adieu a une tonalité. Le discours d'adieu, c'est ce qu'on dit, évidemment, avant de se séparer d'êtres qui nous sont chers. Je dirais que le discours d'adieu, c'est ce qu'on dit sur son lit de mort. C'est ce qu'on dit et qu'on trouve important de léguer à ceux et celles qu'on aime. Moi, j'ai certains souvenirs qui me reviennent. Entre autres, il y a une couple d'années, on a eu une célébration du sacrement des malades en compagnie, au bénéfice là, d'un de mes confrères qui avait voulu que ce sacrement des malades lui soit donné en communauté. Alors, on était tous là. Il avait encore assez de vigueur pour être capable de s'exprimer. Ce qu'on a vécu a été absolument extraordinaire. Là, il nous a dit, lui, qu'est-ce qui était important dans sa vie. Et pour moi, là, c'est une chose qui est inoubliable. Encore récemment, j'ai donné le sacrement des malades à une dame devant ses quatre enfants qui étaient présents. Et là, comme je fais toujours, je lui dis, ben, vous aimeriez peut-être là, dire quelque chose à vos enfants. Parfois, c'est court. Parfois même, ils vont me dire, « Ah, non, je suis trop ému, je suis pas capable. » J'insiste pas, évidemment. Mais elle a eu des phrases, ça n'a pas été très long, mais elle a eu des phrases qui ont bouleversé ses enfants. Puis on dit, « Ça, c'est bien elle. » Et ça, là, on va conserver ça toute notre vie, parce que c'est vraiment ça qui l'a fait vivre. Et pour ma part, me disait sa fille en particulier, là, avec beaucoup d'émotion, ça, là, ça va être pour moi quelque chose qui va me guider toute ma vie. Ben, j'ai eu vraiment l'impression qu'elle avait tracé le chemin à ses enfants. Le texte qu'on vient d'entendre, c'est un texte tellement riche que je déborderai le temps raisonnable que je m'alloue pour le commenter. M'inspirant de Jean Vanier, je m'attarderai surtout à commenter « Je suis le chemin ». Notez bien d'abord, Jésus ne dit pas « Je suis votre guide sur le chemin ». Il dit « Je suis votre chemin, je suis votre chemin ». Et puis il précise « Personne ne va au Père si ce n'est par moi ». Il ne dit pas « Dans mon enseignement », et Dieu sait que l'enseignement du Christ peut être riche, il ne dit pas « Je vais vous donner un enseignement qui va vous conduire au Père ». Il dit « Je vous ai dit quel chemin prendre pour faire la volonté de mon Père, pour emprunter la route qui mène au ciel ». Ce n'est pas la formule qu'il prend. Il dit « Le chemin qui mène au ciel, c'est ma personne. C'est le Fils qui retourne vers son Père. Vous êtes devenus ses enfants, vous aussi, par moi, qui ai voulu devenir humain comme vous. » J'ai voulu devenir un humain comme vous. C'est aussi dans ma personne que vous rencontrerez le vrai Dieu. Et cela est vrai, je dirais, dès ici-bas. S'il faut passer par le Fils pour aller au Père, il faut le connaître, ce Fils qui nous révèle le Père. Comme Jésus le dit à Thomas, vous avez entendu, il va dire à Thomas, et on va l'écouter la suite de ça, ce qu'il a dit à Thomas, il va le répéter à Philippe. Parce que Philippe, là, c'était l'apôtre un peu naïf, puis très spontané. Puis il dit, « Ben, moi, je comprends pas. » À tout bout de champ, il disait ça. « Je comprends pas. » Puis là, qu'est-ce que c'est que tu veux dire exactement, là? Hein? Tu dis, là, « Vous devez passer par moi pour aller au Père, pour aller où je vais. On ne sait pas où est-ce que tu vas. » Alors, Jésus va l'écouter, puis va dire, « Je te comprends, mon Philippe. Je vais être un petit peu plus précis. » Mais il va continuer encore à dire, « C'est par moi que vous devez passer pour aller au Père. Ce n'est pas uniquement un chemin que je vous indique, que je vous trace, comme on le fait dans la vie courante, mais c'est dans ma personne que vous allez vraiment aller au Père. » On va écouter donc la suite de ce texte-là. Là, c'est Jean 14, 6, 14.
Thank you.
Merci. Alors, il me semble que ce qui est important de retenir de ce texte-là, c'est que le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu de Jésus. Ce n'est pas seulement l'être suprême, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu lointain, le Dieu de notre catéchisme en images. Là, les plus jeunes parmi vous ne comprennent pas ce que je veux dire. Mais les personnes qui ont mon âge et un petit peu moins, là, se rappellent sans doute de ce catéchisme en images qui a été reproduit, qui a été réédité par les moines de l'apôtre, le monastère de l'apôtre infini là, à Saint-Jovite. Alors, eux autres, ils sont retournés à leur petit catéchisme, et puis, bon, ils sont revenus à ça, puis il n'y a que ça qui compte pour eux. Alors, ils ont republié, pour leurs adeptes, le catéchisme en images. Puis, quand je regarde ça, là, je feuillette ça, je m'aperçois que la représentation qu'on nous fait de Dieu, c'est toujours le personnage à grande barbe, toujours l'allure sévère. Et je me rappelle que dans ma petite école Durand à Saint-Pierre-de-Broughton, on représentait ce qui est en haut de cette image-là, c'est-à-dire un triangle qui rappelait la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, mais à l'intérieur du triangle, il y avait un œil, et un œil inquisiteur qui nous regardait toujours, disait la maîtresse. N'oubliez pas, là, que cet œil-là, il vous suit partout. Puis partout où vous êtes, là, Dieu vous voit. Si vous faites quelque chose de travers, oh là 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 là, hein, mon Dieu. Et ça devenait quasiment comme une obsession, ce regard de Dieu qui nous suivait partout, mais ce n'était pas le regard aimant du Père vis-à-vis son Fils, c'était le regard de cet être suprême qui nous voyait partout et qui nous guettait comme pour nous prendre en défaut. Et je vais le laisser ici sur le coin de la table, là, pour votre amusement, je dirais, là. Mais vous regarderez, là, chaque fois qu'on voit le Christ, il a toujours l'air sévère, et puis Dieu le Père, bien encore plus. Alors, vous feuilleterez ça, ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu de Jésus. Ce n'est pas ce Dieu lointain. C'est le Dieu proche de nous. Le Dieu lointain, là, ça fait longtemps qu'il a été inventé. Aristote, dans les années 350, c'est un philosophe grec, de 350 avant Jésus-Christ, avait énoncé des arguments qui étaient la preuve de l'existence de Dieu. Puis quand j'ai fait ma philosophie, là, on nous rappelait ces arguments d'Aristote. Entre autres, qu'est-ce qui amenait Aristote à dire « il faut qu'il existe un Dieu » C'était la hiérarchie de la création. Alors, il disait, dans la création, il y a des êtres qui ne sont pas vivants. Ce sont les pierres, c'est le sol. Mais il y a aussi des êtres qui sont vivants. Ce sont les plantes. Ce sont des êtres vivants. Mais parmi les êtres vivants, il y en a qui ont aussi la mobilité. C'est le cas des animaux. Mais il y a aussi un animal qui est supérieur aux autres animaux, c'est l'homme, parce que lui est raisonnable, lui a l'intelligence. Puis il y a d'autres êtres qui sont des intelligences pures, ce sont des anges, ce sont des esprits. Et il y a au-dessus de tout ça un être suprême qui est l'être par excellence, qui est esprit par excellence, au-dessus de tout. Et c'est lui qui a créé. Bon, Aristote avait trouvé ça, lui. On n'a pas besoin de l'Évangile pour nous apprendre que Dieu existe. Et ceux qui nient l'existence de Dieu nient, justement, cet héritage de la philosophie d'Aristote, entre autres, mais qui s'est transmis et qu'on retrouve dans la philosophie judéo-chrétienne. Il n'y a pas d'opposition entre ce Dieu d'Aristote puis notre Dieu à nous, sauf que Jésus et nous est venu nous révéler un Dieu qui s'est incarné, qui est devenu l'un de nous. Un Dieu qui n'est pas là pour nous condamner, qui est là pour nous rapprocher de Dieu son Père. Et il dira, « Je suis le chemin, c'est par moi que vous devez passer pour comprendre le Dieu de l'Évangile, parce que moi, je suis le Fils de Dieu, je me suis incarné, et je me suis incarné pour devenir l'un de vous, pour que vous soyez les frères et les sœurs de ma personne, et c'est par moi que vous allez vous approcher de mon Père. Je suis le chemin, c'est par moi que vous devez passer pour comprendre ce qu'est mon Père. » Je vais vous citer un passage du cardinal Ratzinger. Vous savez qui est cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI. Lorsqu'il a été élu, je m'étais documenté, parce que j'étais à la radio de Radio-Canada, là, comme je l'ai été encore, ils m'ont sorti des boulamites à l'occasion de l'élection du pape François. Mais quand ça avait été Benoît XVI, j'avais été un mois à Montréal à faire partie avec Bernard de Rome d'une équipe, parce que ça avait été long, hein, les funérailles et puis le conclave et tout. Alors, ça avait duré presque 4 semaines. Alors, j'avais trouvé dans mes notes un passage du cardinal Ratzinger qui écrivait ceci, et je trouve ça important de vous citer ça. Il disait, « Si de nos jours le christianisme n'est plus vu comme une source de joie, c'est parce qu'il est perçu comme quelque chose d'institutionnel et non comme une rencontre personnelle avec le Christ. Le noyau du christianisme est une rencontre toujours nouvelle, un événement grâce auquel nous pouvons rencontrer le Dieu qui nous parle, qui s'approche de nous, qui se présente comme notre ami. Si le christianisme n'est pas une rencontre, il apparaît comme une vieille tradition, marquée par de vieux commandements, quelque chose que nous connaissons déjà et qui ne dit plus rien de nouveau. » C'est le pape Ratzinger qui dit ça, là. Hein. C'est un peu étonnant. Hein. « Qui ne dit plus rien de nouveau. Une institution forte, l'une des grandes institutions qui pèse sur nos épaules. Il est décisif d'arriver à ce point fondamental d'une rencontre personnelle avec Dieu, présent aujourd'hui encore et contemporain. Si l'on trouve ce centre essentiel, on comprend aussi le reste. Mais si cet événement qui touche le cœur ne se réalise pas, tout le reste demeure un poids, presque une absurdité. » Ça nous permet peut-être de comprendre ces chrétiens désabusés qui nous donnent parfois l'impression de s'acharner sur l'Église, comme s'ils avaient honte d'y appartenir par leur baptême. C'est ce que le pape Benoît XVI disait, ça devient quelque chose qui pèse sur nos épaules. Alors que le Dieu de Jésus-Christ, celui avec qui nous sommes invités à faire une rencontre personnelle, celui que nous connaissons à travers la parole de Dieu, c'est bien différent. Et c'est pour cela que Jésus va dire, « C'est par moi que vous devez passer pour connaître le Père. Sinon, vous allez connaître un Père bien lointain, un Père qui vous surveille, un Père dont vous avez peur. Alors que je me suis incarné pour vous rapprocher de ce Père, c'est par moi que vous devez passer pour le comprendre. » Bon, je vois que le temps file, je ne voudrais pas abuser, je vais accélérer un peu. Donc, la leçon majeure du texte qu'on a entendu, là, c'est que le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu de Jésus. Pas uniquement ce Dieu lointain, mais c'est un Dieu qui s'est proche de nous. Lorsque nous en arrivons à cette intimité avec Jésus, ça peut changer tout dans notre façon de vivre notre foi. Être chrétien, chrétienne, ça n'est plus d'abord appartenir à une organisation religieuse qui s'appelle l'Église catholique. C'est appartenir au Christ Jésus. L'Église, avec les ressources dont elle dispose, nous fournit le lieu de rencontre. On se rencontre en Église, on se rencontre en communauté, et c'est important. On n'est pas seul devant Dieu, on est avec d'autres. Et la dimension communautaire, c'est important. Donc, l'Église va nourrir notre faim de Dieu par son enseignement, par sa liturgie. C'est ce que nous allons vivre aujourd'hui. Foi et partage, c'est un organisme d'Église. Nous sommes venus entendre un enseignement qui nourrit notre foi. Nous allons partager cette nourriture après-midi là, dans vos ateliers. Nous allons célébrer l'Eucharistie et accueillir en commun et en particulier la présence réelle de Jésus. L'Eucharistie, c'est une autre forme d'incarnation de Jésus. Le Christ a pris notre chair et il vient dans notre chair, il vient à moi, il se fait notre nourriture. C'est une autre façon encore de se rapprocher de nous. Bien ça, c'est important. C'est l'Église qui nous fournit ça. Mais l'essentiel, ce qui est fondamental, c'est cette relation personnelle qu'on établit avec le Christ comme celui qui nous conduit au Père. Et à ce point de vue-là, je dirais que l'appartenance à l'Église devient secondaire. Elle nous aide. Mais ce n'est pas ça être chrétien. Ce n'est pas appartenir à un club. Ce n'est pas appartenir à une organisation. C'est une relation personnelle avec le Christ. Cette intimité avec Jésus, on la vit principalement dans la prière sous toutes ses formes. La prière devient alors un état de communion. Communion, une union avec. C'est pas d'abord des paroles, la prière, mais c'est un rapprochement, un dialogue intérieur. Les paroles expriment ce que nous expérimentons dans notre rapprochement. Comme lorsqu'on embrasse un être cher. Moi, le plus bel exemple que je vois là, c'est quand on rencontre un être cher qu'on n'a peut-être pas vu depuis très longtemps, ou bien qu'on fête, là, et puis on est content de pouvoir le fêter. Puis là, on l'embrasse, on le serre dans ses bras, cet être cher, puis là, on lui dit un petit mot à l'oreille, mais tout court, tout court. Ce qui est important, c'est qu'on l'embrasse. C'est qu'on serre cet être-là dans ses bras. C'est qu'on lui exprime, sans même parler d'abord, ce qu'on vit dans l'intimité. Puis là, les paroles ont moins d'importance. C'est le petit mot d'amour qu'on lui dit à l'oreille. Mais déjà, l'être cher a compris. C'est ça la prière. C'est ça la relation avec le Christ. Pour en arriver à cette intimité, il faut d'abord se rapprocher de Jésus. Il faut emprunter le chemin qui conduit à Jésus. Or, Jésus nous dit, « Le chemin, c'est moi. » Pas besoin de carte routière, pas besoin de GPS. C'est ma personne qui est le chemin. J'ai pris un corps comme le tien pour me rapprocher de toi. N'essaie donc pas de t'évader de ton corps pour te rapprocher de moi. C'est dans ton corps que tu vas t'approcher du Père. Et puis, bien, si vous voulez, on va écouter, ça va être le dernier texte, et puis je vais terminer par un très court commentaire. On va écouter Maud, là, qui a préparé un petit texte qui s'inspire beaucoup de Jean Vanier. Elle va venir nous le lire, et ce texte-là, ce qu'il va nous dire, c'est ce que je viens d'amorcer. Cherchons pas à nous évader de notre corps. C'est avec ce que nous sommes que nous nous rapprochons du Père. Même si ce corps il peut être lourd, même si ce corps il peut être atteint par la maladie, même si ce corps il peut même parfois devenir l'instrument du péché, ça n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on soit semblable au Christ qui a pris corps alors qu'il voulait se rapprocher de nous. On écoute Maud nous lire son texte.
Ce chemin de conduire à Dieu ne passe pas par une séparation du corps, une lutte pour devenir de tous nos esprits. C'est en notre corps établi et dans tout ce qui est fait et brisé que nous rencontrons Dieu. Jésus nous montre un chemin simple d'union à Dieu, chemin de compassion, d'amour, d'humilité et de service. Qui est pour tous, pas seulement les forts, les intelligents, les capables vertueux, mais aussi les faibles et les humbles. La seule chose que Jésus nous demande est de venir à lui avec un cœur humble et confiant. Peu à peu, il nous mènera à une union plus grande avec le Père, qui est compassion et pardon. C'est le chemin que nous, disciples de Jésus, sommes appelés à faire.
Merci. Alors, c'est un commentaire de Jean Vanier, un commentaire d'un texte qu'on a dans son livre, qui est un commentaire de l'Évangile de Jean, « Entrer dans le mystère de Dieu ». Vous connaissez très probablement, moi je l'ai en tout cas, dans ma bibliothèque. Alors, dans ce texte-là, qui est commenté par Maud, Jean Vanier nous met en garde contre une mauvaise façon de vivre nos limites et nos pauvretés, comme si elles nous éloignaient, de Dieu, alors qu'elles devraient au contraire nous rapprocher de lui. Elles bordent la route qui nous conduit à lui, parce que Dieu est amour et miséricorde. Vous savez, quand on dit, là, je vois ça dans le petit feuillet là, de Maud, hein. « Parole faite chair, lumière du monde, le miséricordieux se penche sur la misère pour que la grâce surabonde. » Il faut bien comprendre, quand on dit que Dieu est miséricordieux, on n'est pas capable de vivre ça autant que lui. Autrement dit, nous autres, quand on est miséricordieux, on prend en pitié le monde. C'est ça que ça peut vouloir dire. Je suis miséricordieux, ben, je pardonne, je l'excuse, je ferme les yeux, je l'aime quand même. C'est ça, nous autres. C'est déjà beau quand on est capable de faire ça, là, hein, quand on est capable de pardonner. Dans le cas de Dieu, miséricordieux, lui, il aime la misère. Il aime la misère. Et nous autres, on n'est pas capables de ça. Hein. Ce n'est pas naturel, cela. Là, hein. Mais Dieu aime la misère. Et c'est ça que ça veut dire, miséricordieux, qui a le cœur porté à la misère. Miséricordieux, misère, corps, veut dire cœur. Et alors, parce que le Christ est miséricordieux, il est l'image réelle du Père, et même si on se sent pécheur, même si on se sent là, pas riche, on est peut-être un peu humilié de dépendre des autres, d'avoir une maladie, d'avoir des limites, puis à ce moment-là, notre réaction, ça pourrait être de dire, ben, je vais essayer de sortir de ça. Je vais essayer d'oublier ça. Puis je vais essayer de mettre ça de côté, là, puis... Mais alors là, on se présente non pas avec ce qu'on est, mais avec ce qu'on désirerait être et puis qui n'est pas réel. Il faut savoir aimer sa misère et savoir que Dieu l'aime, cette misère-là, quelle que soit sa sorte de misère. C'est comme ça qu'il a pu être compatissant envers les malades. C'est comme ça qu'il a pu être compréhensif envers la femme adultère. C'est comme cela qu'il a pu être un être de compassion et de miséricorde. Et c'est notre façon à nous, dans la mesure où on peut le faire, c'est notre façon à nous de suivre des traces du Christ. Bon, alors je vous laisse avec ça. C'est un petit peu décousu, je vous l'avoue. J'ai un peu plus de misère que j'en avais à maintenir ma pensée, là. Mais j'aimerais que cet après-midi, je vais revenir d'ailleurs là, pour vous introduire dans les ateliers, là, mais j'aimerais que déjà vous ayez comme préoccupation là, de dire qu'est-ce que c'est qui m'a accroché là, hein, dans ce que Mgr Couture a dit. Là, hein. Je suis un pauvre instrument, là, et puis ce qui est important, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que Jésus a dit. Et peut-être que déjà dans vos échanges, là, déjà vous pourriez peut-être vous entraider un peu là, tout en ayant des occupations qui sont profanes. Là. Mais l'important, c'est que pour vous préparer l'Eucharistie cet après-midi, là, vous goûtiez, vous savouriez cette phrase de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père, sinon en passant par moi, par ma personne. » Et puis, si vous étiez capable, après-midi, là, vous entraider pour que vous puissiez créer cette intimité avec Dieu, cette intimité avec Jésus qui nous conduit à son Père, ce serait un grand progrès spirituel. Je vous le souhaite de tout cœur. En attendant, bien, on va nourrir le corps parce qu'il a besoin de ça. Et comme on ne doit pas s'évader de son corps, bien, on va lui donner qu'est-ce qu'il réclame. Et puis, cet après-midi, on retournera à la parole de Dieu qu'on va approfondir. Merci de votre attention. Un petit peu d'adoration silencieuse. Vous avez raison. Alors, je vous donne... L'abbé Breton va aller chercher des présences. Oui, oui, d'accord. Oui, j'avais oublié là, une partie du programme, là, c'est qu'on va chercher le Saint-Sacrement pour un moment d'adoration. Alors, on ne passe pas aussi vite que je vous l'avais laissé entendre.